Il est 17h ici à Paris, 18h à Gaza. Bonjour à tous.
Karine Bellichat.
À la une, partir et se mettre en sécurité ou rester pour témoigner de la guerre, tel est l'affreux dilemme des journalistes gazaouis, alors qu'une tribune des sociétés de rédacteurs de grands médias, dont RFI, appelle les autorités françaises à les évacuer. Témoignage de l'un d'entre eux, Rami Abou Jamous, dans un instant. Depuis des mois, les manifestants veulent des mesures fortes contre la corruption et appellent à un changement profond en Serbie. Le président Vučić s'accroche et dénonce un crime de destruction du pays. Les enseignants des facultés réclament désormais des élections anticipées. Un nouveau variant du Covid provoque une flambée de cas en Asie. Il est observé depuis avril en Europe et il arrive désormais en France. Faut-il s'en inquiéter? Élément de réponse à suivre. Dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes se poursuivent sans relâche et tous les jours, les journalistes palestiniens prennent des risques immenses pour nous raconter cette guerre dans une enclave interdite à la presse internationale. Depuis octobre 2023, plus de 200 d'entre eux ont été tués selon les chiffres de l'ONU. Les sociétés de journalistes des grands médias français, dont celui de RFI, appellent les autorités françaises à tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent être évacués. Rami Abou Jamous est triple lauréat du prix des correspondants de guerre de Bayeux. Il a choisi, lui, de rester et auprès de sa famille, une décision évidemment très difficile.
C'était la pire décision pour moi parce que j'en ai discuté avec mon épouse Sabah. Je lui ai dit, écoute Sabah, là apparemment nous on fait partie des gens qui sont ciblés beaucoup plus que les autres parce que c'est notre travail de journaliste. Donc je préfère m'éloigner un peu de vous. Et comme ça, s'il m'arrive quelque chose, vous restez en vie. Et la réponse était immédiate. Non, soit on vit tous ensemble, soit on meurt tous ensemble. C'est la pire décision qu'il faut prendre pour un père de famille. Il sait très bien qu'il est en danger et qu'il sait que à cause de lui, il peut perdre la vie de sa famille, sa femme et ses enfants. Mais ça fait partie du risque qu'on est en train de faire. Ça fait partie de notre résistance. Notre résistance, c'est rester sur place, rester en Palestine, rester à Gaza. Et en même temps, notre résistance, c'est aussi transmettre tous les crimes qui sont en train de se faire passer à Gaza.
Rami Abou Jamous, journaliste palestinien de Gaza, il était interrogé par Charlotte Derouin sur RFI à la mi-journée. Aucun cessez-le-feu à l'horizon en Ukraine. L'armée russe poursuit son offensive. Une attaque massive a principalement visé Kiev la nuit dernière, faisant au moins 15 blessés. Seul résultat tangible des négociations à Istanbul, russes et ukrainiens poursuivent un échange record de prisonniers ce week-end. 307 d'entre eux ont regagné leur pays respectif aujourd'hui. 1000 libérations de chaque côté sont prévues au total d'ici demain soir. L'Ukraine, sujet de tensions entre les deux candidats polonais avant le second tour de la présidentielle. Lors d'un débat télévisé hier soir, le maire pro-européen de Varsovie, Rafał Trzaskowski, a dénoncé la position jugée pro-russe de son adversaire et son manque d'expérience à l'international. Karol Nawrocki, candidat nationaliste, a lui mis en avant ses bonnes relations avec Donald Trump, qu'il a rencontré début mai. Le scrutin s'annonce serré. Il aura lieu le 1er juin prochain. C'est une nouvelle étape dans la contestation au président Vučić en Serbie. Plus de 1500 professeurs d'université et de chercheurs ont déposé une pétition pour demander au gouvernement d'organiser des législatives anticipées afin de mettre fin à la crise politique qui secoue le pays. Depuis l'effondrement d'un auvent en béton à la gare de Novi Sad il y a 6 mois, les étudiants manifestent sans relâche contre le pouvoir, accusés de corruption. Si le président nationaliste a changé de gouvernement, ses opposants veulent aller plus loin et veulent retourner aux urnes. Dražen Maric est professeur à la fac d'économie de Subotica et c'est lui qui a lancé cette pétition, on l'écoute.
Nous voyons les élections législatives anticipées comme le seul moyen de résoudre cette crise sociale et politique majeure sous le régime d'Alexander Vučić. Nous pensons qu'il a peur et nous le mettons au défi de le faire car c'est la seule façon pour la Serbie d'avancer vers un avenir meilleur. Nous allons certainement continuer les manifestations, mais d'une autre façon. Et nous allons aussi essayer de trouver une solution sur le terrain politique. Nous le ferons dans les prochains jours car tout le monde sait maintenant que le principal principal obstacle à la résolution de cette crise est le président Vučić.
Dražen Marić, professeur d'université, interrogé par Julien Chavannes. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, se dit préoccupé après une vague de répression au Venezuela. Comme 70 militants, l'un des dirigeants de l'opposition, Juan Pablo Guanipa, a été arrêté. Très proche collaborateur de la dirigeante de l'opposition, Maria Corina Machado. Des interpellations qui interviennent juste avant les élections législatives et régionales demain. Hong Kong ouvre ses portes aux étudiants étrangers qui renonceraient à aller à Harvard. La ville chinoise promet d'ores et déjà des procédures d'admission simplifiées. L'administration américaine entend retirer l'autorisation à la prestigieuse université américaine d'accueillir des jeunes du monde entier. Un recours d'Harvard devant la justice bloque pour le moment cette décision. Nippon Steel applaudit le soutien de Donald Trump à son offre de rachat de 15 milliards de dollars de US Steel. Après s'être opposé, le président américain affirme désormais que ce partenariat créera au moins 70 000 emplois et sera bénéfique pour les États-Unis. À Tokyo, ce revirement de Donald Trump est une énorme surprise. La correspondance de Frédéric Charles.
Nippon Steel rêvait de racheter US Steel depuis décembre 2023. Mais en pleine campagne présidentielle américaine, démocrates et républicains s'étaient unis dans une réaction protectionniste viscérale aux relents anti-japonais pour briser le rêve de Nippon Steel. Aujourd'hui, le géant japonais de l'acier salue la décision de Donald Trump. Ce partenariat change la donne, dit-il, pour US Steel et l'industrie sidérurgique américaine. Le gouvernement japonais avait très mal pris l'hostilité de l'administration américaine envers Nippon Steel. Le Japon est le premier investisseur étranger aux États-Unis, son allié numéro un en Asie. Chris Richter, l'analyste automobile de la banque CLSA à Tokyo, laissait entendre que le président américain avait une conception erronée des pratiques commerciales japonaises datant des années 70, quand le Japon faisait trembler le monde. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
En France, les députés ont fini l'examen des deux propositions de loi très importantes sur la fin de vie. Un texte consensuel sur les soins palliatifs et l'autre beaucoup plus sensible sur l'aide à mourir. Le vote solennel est prévu mardi, mais rien n'est joué encore car chaque groupe laisse à ses membres la liberté de vote. Il s'appelle NB181. Un nouveau variant du Covid a été détecté pour la première fois en France. Information révélée hier soir par la chaîne BFM TV, confirmée par le Centre National de Référence, un laboratoire en charge de la surveillance des variants émergents. 4 personnes ont été infectées dans l'Hexagone par cette nouvelle souche, responsable d'une envolée des contaminations en Asie, notamment à Hong Kong ces derniers jours. Alors faut-il s'en inquiéter ? Pas forcément, explique Olivier Terrier, chercheur au Centre international de recherche en infectiologie de Lyon.
Vous savez, il y a différentes échelles de classification pour l'OMS. Il y a les variants qu'on surveille, il y a les variants d'intérêt, plus préoccupants, et puis il y a les variants of concern en anglais, donc les variants problématiques. Pour l'instant, on n'est qu'au premier niveau, c'est un variant qu'on surveille. On sait que ce nouveau variant possède quelques mutations supplémentaires par rapport aux variants précédents, et qui sont des mutations qui lui permettraient probablement de mieux se transmettre, et aussi potentiellement d'échapper plus facilement aux anticorps. Pour l'instant, on n'attribue pas forcément une plus grande gravité associée à ce variant. Ce pic d'hospitalisation qu'il y a en Asie, il est peut-être tout simplement lié au fait que l'immunité contre le SARS-CoV-2 a baissé, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on suit sa propre évolution, parce que ce variant va très vite évoluer lui-même. Est-ce qu'il va porter des traits génétiques supplémentaires qui vont lui conférer une plus grande gravité ou non? Ça, c'est dans les jours qui viennent, en fait, qu'on va le savoir.
Olivier Terrier, infectiologue au micro de Baptiste Coulon. La remise des prix à Cannes ne sera pas perturbée par l'importante coupure de courant qui a touché la ville du sud de la France et ses alentours. 3 des 4 piliers d'un pylône de la ligne à haute tension alimentant Cannes ont été sciés, un acte malveillant selon le procureur de Grasse. Le palais des festivals bénéficie d'un système d'alimentation électrique indépendant et le palmarès sera connu ce soir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.